Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julie Delabrosse, Aliette Ovin et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'innovation. Aujourd'hui, cap sur la Chine, devenue la championne du monde des dépôts de brevets. Les Chinois, grands inventeurs de la boussole, de la poudre à canon et de la roue hydraulique, ont souvent été considérés au cours des dernières décennies comme des imitateurs et non comme des créateurs. Une tendance résumée par le mot Shanghai qui désigne cette culture de la contrefaçon. Or, depuis plusieurs années, Pékin tente de rattraper son retard et investit massivement dans l'innovation technologique. Alors comment et pourquoi la Chine tente-t-elle de passer aujourd'hui de la production à bas coût aux technologies de pointe ? C'est ce que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du grand rattrapage de la Chine en matière d'innovation en compagnie de Jean-Paul Maréchal, maître de conférence en sciences économiques à Rennes 2, auteur de Chine USA, Le climat en jeu, publié aux éditions Choiseul, et de Guilhem Fabre, professeur à l'université Paul Valéry, auteur de Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation, les multinationales face à l'économie de la connaissance, paru aux publications des universités de Rouen et du Havre. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
En regardant les résultats de l'indice mondial de l'innovation de cette année, ce qui est surtout frappant, ce sont les résultats de la Chine qui, comme vous le savez, est montée de la 22e à la 17e place. Et cela est une performance exceptionnelle qu'il convient de saluer. Nous apportons beaucoup d'importance aux avancées d'une année sur l'autre, mais dans le cas de la Chine, cette évolution se place dans une tendance que nous avons pu observer depuis plusieurs années, d'une montée en puissance réelle de ce pays. Et cela est particulièrement remarquable car la Chine est le seul pays à revenus intermédiaires à se placer dans le top 20 des nations les plus innovantes selon cet indice. C'est donc une réussite qu'il faut saluer. Nos résultats vont dans le même sens qu'un grand nombre d'indicateurs qui montrent tous l'importance particulière accordée à l'innovation, et ce, à tous les niveaux de la société chinoise. L'innovation est devenue l'élément central de la transformation de cette économie pour passer en quelque sorte d'usine à forte intensité de main-d'œuvre à une économie fondée sur la valeur ajoutée et l'innovation.
Jean-Paul Maréchal et Guilhem Fabre, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous. Alors, je rectifie, Jean-Paul Maréchal, vous êtes donc à l'université Paris-Sud, c'est bien cela ?
Oui.
Alors, on vient d'entendre Francis Gurry, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et je voudrais vous poser d'emblée la question qui nous intéresse. Est-ce que la Chine est en train de devenir une grande puissance innovante, Jean-Paul Maréchal ?
À cette question, la réponse est incontestablement positive. Hein. On pourrait citer grand nombre d'indicateurs qui montreraient une montée en gamme de la Chine aussi bien du côté de ses productions qu'une montée en matière du nombre de scientifiques, d'articles scientifiques, de dépôts de brevets. Après, la question est de savoir est-ce que la Chine est en passe de devenir leader comme l'ont été ou comme le sont encore très largement les États-Unis dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est une autre question sur laquelle je serais beaucoup plus nuancé.
Guilhem Fabre, est-ce que la Chine peut devenir un champion véritablement de l'innovation ?
Alors, je pense que je suis grosso modo d'accord avec Jean-Paul. L'innovation est encore maintenue, la pointe de l'innovation est détenue par les États-Unis. Mais je pense que la Chine a depuis, disons, une quinzaine d'années développé, grâce à son marché, des applications d'innovation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, bon, à travers les transferts de technologies qu'elle a obtenus, petit à petit, vu la taille de son marché, et ça, tous les économistes sont d'accord pour dire que la taille du marché est quelque chose qui est décisif en matière d'innovation.
Un marché intérieur d'1,4 milliard de personnes.
Quand vous avez un marché intérieur qui est absolument considérable. Vous pouvez développer des applications. Alors ça se fait en matière de téléphonie mobile, ça s'est fait en matière de commerce électronique. E-commerce, c'est les champions mondiaux. C'est bon, tout ça, ça s'est fait en matière d'Internet. Vous pouvez, à partir de cette base-là, développer donc des aspects extrêmement avancés, hein, des produits qui sont extrêmement performants. Et je pense, je faisais des comparaisons dans un papier que j'ai produit sur l'intelligence artificielle dans le cadre de notre séminaire commun avec Jean-Paul à la FMSH, en disant que ça garantit pas qu'un pays, à un moment donné, soit leader, hein, comme ça a été le cas, par exemple, de l'Italie du Quattrocento au XVe siècle, n'empêche pas qu'au XVIe siècle, ça a été l'Espagne et le Portugal qui se sont partagés le monde. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pu, à partir des innovations qui avaient été développées et des découvertes qui ont été développées par les Génois, les Italiens, ensuite, elles ont mis le paquet au niveau de leurs investissements pour développer et acheter un petit peu les meilleurs scientifiques.
Mais alors, cette volonté de devenir leader dans l'innovation, c'est avant tout une volonté d'État. On a des investissements dans la recherche et le développement qui augmentent chaque année, qui augmentent de 20% sur les 10 dernières années, Jean-Paul Maréchal.
Ah oui, il y a clairement une stratégie de l'État chinois. Bon, faut quand même rappeler, c'est que 50% de la production industrielle chinoise est le fait d'entreprises d'État. Que les grandes banques chinoises sont des banques d'État, ce qui évidemment facilite le financement des investissements, de l'innovation, et que on a réellement une politique industrielle, hein, au sens premier du mot, qui est menée par la Chine, soit depuis les réformes de 78, soit encore plus clairement depuis les années 1990. Et puis il y a un deuxième élément qui complète ce qu'a dit mon collègue, c'est que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, les Chinois se sont intéressés à la fabrication. C'est-à-dire que, rappelez-vous, les années 90-2000 en Occident, on se targuait du fait qu'on pouvait délocaliser la production n'importe où dans le monde. L'essentiel, c'était de garder à domicile les bureaux d'études, comme si le savoir ne se créait pas là où on fabrique les objets. Et donc les Chinois sont intéressés à la fabrication, ils ont donc développé une culture industrielle. À cela s'ajoute, on en reparlera peut-être, l'obligation pour les sociétés occidentales de créer des co-entreprises lorsqu'elles veulent investir sur le marché chinois. Et donc là, évidemment, vous avez des transferts massifs de technologies qui s'opèrent indépendamment de la question des brevets. Et à ça, vous ajoutez le mouvement symétrique, c'est-à-dire les investissements directs étrangers en chinois à l'étranger qui ciblent évidemment un certain nombre d'entreprises de très haute technologie. C'est le cas lorsqu'un constructeur chinois achète à peu près 10% du capital de Daimler, par exemple.
Alors, avant d'en venir à cette histoire de cette volonté d'État d'investir dans l'innovation en Chine, peut-être, Guillaume Fabre, faut-il d'abord préciser que cela dépend évidemment des secteurs. Vous avez cité l'intelligence artificielle, on peut citer aussi les télécoms. ZTE et Huawei, qui sont les deux géants des télécoms, ont déposé un tiers des demandes de brevets internationaux en 2016, mais voilà, il y a des secteurs dans lesquels la Chine est très en avance et d'autres dans lesquels, au contraire, elle accuse un certain retard.
Oui, mais ce qui est frappant, c'est de voir un petit peu la trajectoire qui s'est passée. Bon, je compare ça des fois aux Coréens. Vous savez, dans les années 70, il y avait beaucoup de gens qui se moquaient un petit peu en disant « les Coréens, bon, ils font de la sous-traitance pour les Américains ». Bon, et puis, à partir des années 2000, vous avez eu les multinationales, Samsung, etc. Il y a eu 4% du PIB quasiment dans la recherche et le développement. Et ce sont devenus des multinationales incontournables. Bon, dans un autre domaine, les TGV, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois ? J'ai développé ça dans un article. Je montre, ils ont fait du right copy, hein, par rapport au copyright de tous les constructeurs qui étaient Siemens, Alstom, Kawasaki Heavy Industry, Bombardier. Hein, vous voyez tous les trains chinois et en l'espace d'une dizaine d'années, le premier TGV de 2008, d'accord, ils ont construit 20 000 km de TGV. Alors, c'est pas allé sans casse, il y a eu un accident au début, etc. Mais ça n'empêche, ce sont des performances absolument qu'on n'a jamais vu dans le monde auparavant. Mmh. Tout simplement parce que c'est appuyé par une machine d'État. Alors, le grand problème, je dirais, de l'innovation chinoise, c'est qu'elle est top-down. Elle vient du sommet et elle repose sur des gros problèmes, sur des gros programmes d'État. Et puis, par ailleurs, le deuxième grand problème, c'est quelles sont les possibilités de créativité dans un environnement éducatif de plus en plus oppressant. À l'heure actuelle, la situation est de pire en pire, hein, au niveau du contrôle idéologique, etc. On s'aperçoit que, en fait, les principaux innovateurs, c'est souvent des gens qui sont passés, hein, dans des domaines assez avancés, de l'informatique, etc., qui sont passés de Taïwan à la Chine, qui sont passés de Hong Kong à la Chine, et qui passent leur temps entre les États-Unis et la Chine.
Alors, on va revenir sur cette question de la formation qui est absolument essentielle. Mais d'abord, partons aux origines de ces performances. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est Deng Xiaoping qui va lancer en 1978 la deuxième conférence nationale sur la science et la technologie. La fin des années 70 constitue un véritable tournant, Jean-Paul Maréchal.
Ça, c'est incontestable. Alors, en matière d'innovation, bon, certains historiens ont mis en évidence que malgré les tumultes créés, quand je dis tumulte, c'est par goût de l'euphémisme, par le grand bond en avant ou la révolution culturelle, il y a toujours eu en Chine la sanctuarisation d'un certain nombre de programmes, en particulier du nucléaire. Bon, mais là on est vraiment dans des programmes, comme le dirait Guilhem, top-down. Là c'est vraiment la machine d'État. À partir de 1978, effectivement, Deng Xiaoping revient au pouvoir et entame une modification de l'économie chinoise. Et c'est ensuite qu'un certain nombre d'innovations vont avoir lieu sur le plan institutionnel. Par exemple, en 1988, l'article 11 de la Constitution chinoise autorise l'économie privée. En 1992, le 14e congrès proclame l'économie socialiste de marché. En 2004, on revient sur la question de la propriété privée en disant qu'elle est désormais inviolable. Et on a donc, là, vous voyez, des modifications législatives, institutionnelles, constitutionnelles qui, effectivement, tendent progressivement à la reconnaissance de la propriété privée, pour reprendre l'expression que finalement s'enrichir n'est plus perçu comme quelque chose de négatif et glorieux, pour reprendre l'expression. Mais il y a un point quand même qu'il faut tout de suite préciser, et je pense que les Occidentaux se sont beaucoup mépris sur ce mouvement-là, c'est qu'il n'a jamais été question pour les autorités chinoises que le secteur public disparaisse. Pour les dirigeants chinois, le secteur privé peut se développer, mais toujours à côté d'un secteur public qui demeure, comme je vous le disais, prépondérant.
Mais alors, plus spécifiquement sur l'innovation, c'est Deng Xiaoping qui envoie des dizaines, puis des centaines de milliers d'étudiants à l'étranger, avec l'idée de vraiment réaliser un investissement à long terme. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a des accords de coopération scientifique et technologique qui sont signés avec la plupart des pays industrialisés. Donc on voit qu'en termes d'innovation, il y a déjà un premier pas important qui est franchi, Guillaume Fabre.
Alors là, c'est de la formation. C'est de l'ouverture, c'est au contraire, c'est une dynamique de rattrapage dans un premier temps. Et puis vous avez le plan à moyen terme de la science qui est lancé en 2006, il me semble, et là qui est un plan très très important parce que ça fixe des objectifs, à moyen terme. Et surtout à partir des années 2000, en matière de formation, on passe de 1 million d'étudiants par an à... Petit à petit, on arrive aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui sont diplômées, hein, en licence en Chine, dont la majorité s'inscrivent dans le domaine des sciences et techniques. Alors ça modifie complètement. Les indicateurs que vous avez donnés tout à l'heure sur l'innovation, ils prennent une échelle mondiale de l'innovation, mais ils sont assez trompeurs. Pourquoi ? Parce que on considère quel est le pourcentage de l'innovation par rapport à chaque PIB et on met la Chine à côté, derrière la Corée, bien sûr derrière Singapour. Mais quand vous regardez la Chine, les dépenses de recherche et développement en Chine ont dépassé celles de l'ensemble de l'Europe à partir de 2015. Donc attention, il faut tenir compte d'un phénomène d'échelle, pas simplement d'un phénomène de pourcentage. voir ça comme ça, et dans quelques domaines que vous situiez, par exemple sur les publications scientifiques, ça c'est très clair, aussi bien dans le domaine des sciences de la vie que dans le domaine de l'ingénierie, etc. Bon, les Chinois sont les deuxièmes ou parfois les collent tout à fait les Américains.
Et alors en 2006, vous l'avez dit, il y a un coup d'accélérateur à cette politique de soutien à l'innovation qui est donnée par le ministre des Sciences et Technologies. La Chine se rend alors compte, Jean-Paul Maréchal, que plus de 70% des brevets exploités sur son territoire appartiennent à des étrangers. Le gouvernement décide qu'en 2020, plus de 70% des brevets exploités en Chine seront détenus par des Chinois. Alors est-ce que Pékin a atteint ou va atteindre cet objectif ?
Alors, va atteindre, je sais pas, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que si on veut parler des brevets qui sont un indicateur relativement faible dans la mesure où, finalement, aujourd'hui, il y a tout un débat sur le point de savoir si on dépose pas trop de brevets. Vous voyez, bon, et si on prenait, par exemple, l'évolution du nombre de brevets déposés dans le monde, vous voyez, en l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé d'un million et demi à 3 millions pour le monde entier, on a du mal à penser qu'en l'espace de 15 ans, on a eu deux fois plus d'idées originales que les gens qui vivaient il y a une décennie et demie.
Bon. Et alors, pour quelle raison dépose-t-on autant de brevets ? C'est une manière de montrer sa capacité.
Oui, c'est surtout une manière de déposer des brevets qui sont dits dormants, de manière à pouvoir contre-attaquer si une entreprise concurrente vous fait un procès pour imitation, contrefaçon, etc.
Et puis pour chasser des rentes. Tout simplement. Voilà. C'est souvent des chasseurs de rente qui déposent des brevets et qui multiplient. Et puis...
Donc indicateur à prendre avec précaution.
Maintenant, effectivement, ce qu'on peut quand même dire, c'est que même si cet indicateur est biaisé, il est biaisé pour tous les pays de la même façon. Donc, à partir du moment où vous regardez une évolution, elle est quand même significative. Et donc, si on prend les derniers chiffres disponibles, vous avez effectivement 1 300 000 brevets qui ont été déposés en 2016 par la Chine, et 600 000 par les États-Unis, et un peu plus de 300 000 par le Japon. Bon, oui, c'est quand même pas mal le Japon qui a une population qui est un dixième de la population chinoise, donc ils se débrouillent quand même plutôt bien nos amis japonais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir où sont déposés les brevets, d'accord ? Et c'est là où la situation change considérablement, puisque 96% des demandes chinoises de brevets sont faites en Chine, et seuls donc 4% sont déposés à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis, au Japon, en Corée, parce qu'il y a entre 5 et 8 endroits qui véritablement dans le monde comptent quand vous voulez déposer des brevets. En revanche, si vous prenez le cas du Japon ou des États-Unis, 43% des dépôts de brevets venant du Japon ou des États-Unis sont déposés à l'étranger. Donc la conclusion pour certains, c'est que ces brevets chinois n'ont pas forcément une grande valeur commerciale à l'international, sinon évidemment les Chinois protégeraient leurs innovations sur les marchés étrangers. Ce qui veut dire, voyez, que ils n'ont pas tellement peur d'être imités, mais s'ils n'ont pas peur d'être imités, l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est peut-être parce que ça pas tellement d'intérêt de les imiter, dans la mesure où c'est plutôt le phénomène contraire qui a eu lieu, où ce sont les Chinois qui ont imité les produits occidentaux et pas le contraire.
Alors justement, vous parlez d'imitation, Guillaume Fabre, vous commencez à le dire il y a un instant, la Chine a mis en place une réglementation qui favorise l'accès de ces entreprises à des informations plus ou moins sensibles appartenant à des entreprises étrangères. Alors en quoi est-ce que cela consiste ?
Il y a l'idée d'un
transfert de technologie pour pouvoir s'implanter dans le marché chinois. C'est une des conditions.
Je pense que, si vous voulez, à partir des années 2005, 2008, grosso modo, autour de la crise mondiale, qu'est-ce qui s'est passé ? Auparavant, les entreprises étrangères se focalisaient en Chine sur la contrefaçon en disant, voilà, on nous copie à tire-larigot, etc. Et puis, à partir d'un moment, s'est passée l'émergence, effectivement, toute la puissance chinoise, elle s'est construite comment ? La puissance des grands groupes chinois, elle s'est construite sur les marchés publics, comme par exemple le cas des TGV, c'est un bon exemple. Elle s'est construite sur les télécommunications, dans des marchés qui étaient complètement protégés, hein, de la concurrence étrangère. Et une fois qu'ils sont installés, ces marchés-là, ça a été les Chinois ont été en mesure de fixer leurs conditions par rapport aux entreprises étrangères en disant voilà, si Alstom veut venir chez nous, par exemple, ben voilà, il va être sous-traitant de tel type de sécurité sur les réseaux, sur nos réseaux de chemin de fer, etc. Donc à travers ça, avec la puissance et l'échelle de leur marché, ils ont été en mesure de négocier la présence des entreprises étrangères. La même chose dans l'industrie automobile aussi. Ils ont fixé des seuils de 50% de participation. Et ils ont dit, ok, donc on fixe 50% de participation pour tous les constructeurs étrangers, mais en même temps, on impose aux constructeurs étrangers un certain nombre de pourcentages de pièces à produire en Chine. Ce qui a fait que toute l'industrie, en fait, des pièces détachées, tous les équipementiers se sont installés en Chine. Et à l'heure actuelle, la Chine regroupe les grands équipementiers mondiaux. Donc, vous voyez, à travers ça, il y a toute une subtile, je dirais, une façon, hein, qui n'est pas tout simplement on fixe les conditions brutalement. Hein. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs, avec les Chinois. C'est jamais brutal. Hein, un autre programme que je citerai, qui est tout à fait à la limite poétique, c'est celui qui a été lancé par l'Armée populaire de libération en 2007, qui s'appelle « Butiner des fleurs à l'étranger pour faire du miel au pays ».
C'est l'idée d'investir à l'étranger
pour... Non, pas du tout. C'est un programme qui a réussi à envoyer 2500 officiers scientifiques de l'Armée populaire de libération pour collaborer dans toute une série d'universités. Ça a été résumé dans un rapport australien qui est sorti récemment et dans des domaines extrêmement sensibles. Hein, lancement, explosion, enfin toutes sortes de technologies militaires dans lesquelles les Chinois ont pu progresser. Et dans le cas chinois, n'oubliez pas que toutes les avancées scientifiques sont liées aussi à des avancées militaires. Et ça fait partie d'une politique tout à fait concrète.
Jean-Paul Maréchal, les entreprises étrangères ont été contraintes d'accepter ces transferts de technologies pour pouvoir s'implanter sur le marché chinois ?
Oui, tout à fait. Et je rejoins absolument ce que disait Guilhem, c'est-à-dire que y a ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure une politique industrielle, c'est-à-dire que y a une espèce de stratégie un peu de l'encerclement. C'est pour ça que Kissinger, au début de son livre sur la Chine, parle du jeu de Go plutôt que du jeu d'échecs. Donc vous placez comme ça des éléments qui, pris individuellement, en réalité, peuvent vous apparaître comme bénins. Bon, et en réalité, c'est progressivement que se dessine la figure. Vous voyez, comme quand une figure fractale apparaît sur un écran d'ordinateur. Et donc, on va vous expliquer que, après tout, c'est pas très grave de sous-traiter en Chine la production de tel ou tel composant. Sauf que, effectivement, à la fin, vous avez les équipementiers qui se retrouvent en Chine parce que eux aussi trouvent leur intérêt de produire à des coûts qui sont plus bas. Et ce qui est capable de faire la Chine, l'Inde, par exemple, n'est pas capable de le faire. Et tout à l'heure, on parlait des étudiants chinois à l'étranger, c'est évidemment un élément important, mais ce qu'il faut surtout pas négliger, ça a été la capacité de la Chine à former une main-d'œuvre qui est, somme toute, efficace. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'ouvriers compétents en Chine qui sont capables d'assembler un Airbus ou une voiture que ça ne serait le cas dans un pays comme l'Inde. Donc c'est vraiment une stratégie qui a consisté à faire miroiter des parts de marché importantes. Donc effectivement, les constructeurs occidentaux se sont précipités. Mais il faut pas oublier aussi ce que je disais tout à l'heure, le mécanisme inverse, c'est-à-dire des groupes chinois qui investissent à l'étranger, dans un certain nombre de secteurs qui sont stratégiques. Et si vous voulez, tout à l'heure, on pourra y revenir.
Mais alors justement, à ce propos, les États-Unis ont renforcé le mois dernier les contrôles sur les investissements étrangers dans les entreprises américaines qui produisent des technologies dites sensibles. On voit que ce qui est en train de monter, peut-être, c'est une méfiance envers les investissements chinois, notamment à cause de cette inquiétude autour du vol de secrets industriels, Guillaume Fabre.
Alors, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que il est stupide de refuser à un quelconque pays d'avoir une certaine indépendance technologique et de développer sa technologie. Il est bien évident que chaque pays, que ce soit la Chine, l'Inde, etc., c'est positif s'il peut développer ses propres technologies avec son agenda. Hein, ça, donc l'exigence que par exemple qu'ont posé parfois les États-Unis de dire stop à Made in China, le plan Made in China 2025 qui consiste à dire voilà, ben, nous voulons ne pas dépendre automatiquement de l'étranger et puis petit à petit remonter en gamme l'innovation, elle est parfaitement légitime. Ceci dit, faut voir la façon dont ça peut se passer. Effectivement, la grande rupture, ça a été 2008. Parce qu'avec la crise de 2008, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, les actifs industriels dans toute une série de domaines assez sensibles sont devenus assez bas, hein, aux États-Unis comme en Europe. Et les Chinois, qui avaient à l'époque des excédents commerciaux considérables et qui plaçaient en bons du trésor américain avec un rendement extrêmement faible, ont eu comme... soit ils perdaient de l'argent sur ce tapis de devises, soit ils commençaient à investir et petit à petit, ils ont été bien avisés d'acheter les fleurons de l'industrie technologique.
Alors, donc il y a un enjeu d'indépendance technologique très important de la part de la Chine. C'est ce que vous nous dites,
oui,
notamment
c'est dans le cadre de domaines sensibles. Il appartient à tous les pays, bien sûr, de ne pas se laisser embringuer dans cette dynamique. Par exemple, quand ils ont acheté une partie du capital de Daimler l'an dernier, quand ils ont acheté KUKA, une société robotique allemande, quand ils achètent aux États-Unis aussi toute une série d'entreprises de semi-conducteurs qui est un secteur particulièrement sensible parce que les Chinois sont en retard dans ce domaine-là. Et là, c'est un domaine qui a des applications. Ce sont par définition des technologies duales, c'est-à-dire qui ont des applications à la fois civiles et militaires. Donc, dans toute une série de domaines, on a des technologies duales et comme les Chinois le revendiquent, ils ont dit l'industrie militaire doit être complètement liée à nos industries civiles.
Mais alors, est-ce qu'on constate au Japon, aux États-Unis, en Europe, l'émergence de législations de plus en plus contraignantes pour justement éviter que les investissements chinois aboutissent à des vols de données ou à des récupérations de technologies?
Alors, je peux pas vous répondre sur le plan du droit parce que je suis pas juriste, hein. Mais clairement, il y a une prise de conscience qui s'opère depuis maintenant quelques années. Effectivement, vous citiez les décisions américaines. Alors, compte tenu de la personnalité de Trump, c'est formulé d'une manière assez particulière.
Mais c'est dans un contexte de guerre commerciale qu'il faut évidemment.
Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les thèses de Trump, selon lesquelles il faut se méfier du pillage de données et de propriété intellectuelle chinoise, sont partagées bien au-delà des quelques conseillers de la Maison Blanche, y compris au sein du parti démocrate. Hein. Parce que c'est vraiment des questions d'indépendance et on voit bien, si on voulait prendre d'autres exemples, hein, vous avez deux grands constructeurs automobiles chinois, Dongfeng et Geely. Dongfeng, c'est un constructeur public, il a créé des co-entreprises avec Nissan, avec Honda, il a acheté 14% du capital de Peugeot. Geely a racheté Volvo, il a racheté les taxis londoniens, il a 50% du capital de Lotus et il a racheté 9,6% du capital de Daimler, c'est-à-dire Mercedes. Donc là, voyons, on change de gamme. Moi, pendant des années, à partir de 2010, j'expliquais à mes étudiants que les Chinois adoreraient racheter Mercedes mais que c'était pas à vendre. En fait, à partir de 2018, ça a été le cas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec 9,6% du capital, vous devenez un actionnaire majoritaire. Et si on prend d'autres domaines comme par exemple Toulouse, il faut savoir c'est qu'aujourd'hui l'aéroport de Toulouse, là où se trouvent les usines et le siège d'Airbus, est la propriété à 49,9% des Chinois. Bon, et on peut penser que si l'aéroport de Dijon, qui est sans doute tout à fait bien, avait été en vente, les Chinois se seraient probablement beaucoup moins intéressés qu'à l'aéroport de Toulouse. Donc vous voyez, faut bien comprendre que c'est quand même ça, et compte tenu de la gestion hasardeuse qu'a eu l'Europe de la crise grecque, eh bien désormais, les Chinois ont eu pour une bouchée de pain le port du Pirée, c'est bien qu'alors là, maintenant, ils ont un débouché pour les routes de la soie, en plein cœur de la Méditerranée, et éventuellement aussi pour faire stationner des bateaux de la marine de guerre chinoise.
Alors comment comprendre ces progrès technologiques chinois? On cite souvent aussi l'espionnage industriel. Écoutons la déclaration du porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois. Après l'inculpation aux États-Unis de 5 officiers de l'armée chinoise pour piratage informatique et espionnage économique, c'était en 2014.
Nous n'avons jamais commandité ou participé à ce soi-disant cyber-cambriolage de secrets commerciaux. Ce sont les États-Unis qui ont commandité cet espionnage informatique et qui ont mis sur écoute des individus, des entreprises et des institutions de nombreux pays à travers le monde. Et la Chine est victime de ça. Les États-Unis ont délibérément fabriqué ces soi-disant faits.
Bon, voilà, on entend la Chine qui renvoie la balle aux États-Unis. Par ailleurs, il y a quelques jours, deux sociétés chinoises et taïwanaises ont été inculpées par la justice américaine pour avoir tenté de voler des secrets industriels aux fabricants de semi-conducteurs américains Micron Technology. Est-ce que la Chine, on entend beaucoup ce genre d'actualité, est-ce que la Chine se rend vraiment plus coupable d'espionnage industriel que d'autres puissances, Guillaume Fabre?
Alors, je pense que la Chine veut rattraper son retard. Et dans des domaines extrêmement sensibles qui sont ceux de technologie duale, justement, comme ces semi-conducteurs, eh bien, elle le fait par tous les moyens. Et ce qu'on oublie un petit peu trop, c'est qu'il y a un monde chinois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les Chinois de Chine populaire, il y a plus de 300 000 étudiants chinois aux États-Unis, il y a tous les Chinois qui sont partis aux États-Unis aussi après 1989, et il y a les Taïwanais. Or, les Taïwanais, c'est Taïwan, c'est comme ça a été le pilote en matière de toute l'industrie informatique pendant des années. Donc, dans ce domaine-là, on a déjà observé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sociétés. Il y a 1 million de Taïwanais qui travaillent en Chine à l'heure actuelle, qui sont des cadres. Surtout dans des sociétés informatiques, télécommunications. Eh bien, de plus en plus, les Chinois essayent de collaborer très étroitement avec ces gens-là qui ont été tous formés aux États-Unis. Les gens les plus performants, par exemple, dans le domaine, il y a un bouquin qui a été fait par Kai-Fu Lee, la société Sinoventure, qui est un Taïwanais, qui travaille en Chine, sur l'intelligence artificielle et le conflit entre la Chine et les USA à
Mais
ce propos.
Plus spécifiquement sur l'espionnage industriel, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, très simplement, la Chine le pratique plus que d'autres pays, ou finalement tout le monde pratique l'espionnage industriel?
Tout le monde le pratique. C'est évident. Mais la Chine a un réseau, je l'ai expliqué tout à l'heure, il me semble, avec ce programme de l'Armée populaire de libération. Mmh. Et surtout, il y a, si vous voulez, une volonté de lier tous les progrès civils en Chine avec des progrès militaires. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai en France, parce que dès que vous déposez un brevet, s'il intéresse les militaires, ils mettent, ils en prennent le monopole. Donc c'est universel comme système.
Jean-Paul Maréchal.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on voit pas pourquoi les Chinois le feraient pas. C'est-à-dire que effectivement, l'espionnage industriel est quelque chose qui est aussi vieux que la révolution industrielle. Je vous rappelle que au moment de l'exposition universelle de Londres en 1851, il y a eu tout un débat d'industriels anglais qui disaient mais c'est complètement fou d'exposer des produits comme ça à la vue de tout le public puisque des étrangers retournant chez eux vont en faire des copies. Donc l'espionnage industriel c'est quelque chose qui est assez courant. Maintenant c'est pas une raison pour ne pas essayer de s'en protéger. Voyez puisque là après, on change de registre. Est-ce que si la question c'est est-ce qu'il y a de l'espionnage industriel tout le temps, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a un espionnage industriel particulièrement actif de la part de la Chine? La réponse est oui, parce que comme le dit Guilhem, il y a aussi évidemment un effet de taille. La question qui se pose maintenant, c'est il ne faut pas non plus penser que l'espionnage industriel vous permet forcément d'atteindre le même niveau de compétence que les entreprises que vous espionnez. Et par exemple, dans le domaine aéronautique, on pourrait tout à fait montrer que s'agissant de la Chine, c'est loin d'être le cas.
Guillaume Fabre.
Oui, alors, je pense effectivement en matière... je pense que ce n'est pas vraiment la grande problème, l'espionnage industriel, puisqu'il se pratique un petit peu de tous les côtés. Mais, bien sûr, il faut s'en protéger au maximum. Mais le problème, c'est d'une part l'absence totale de réciprocité. C'est-à-dire que tous les investissements chinois Et ça a été d'ailleurs développé dans un rapport du Rhodium Group et du Mercator Institute récemment sur l'absence de réciprocité des rapports entre l'Union européenne et la Chine.
C'est quelque chose que Trump dénonce régulièrement.
Voilà, et c'est quelque chose qui existe avec les Américains aussi. Mais au lieu d'unir tout ça, Trump aurait pu dire se mettre d'accord avec les Japonais, les Européens, pour discuter directement avec les Chinois, pour modifier les règles du jeu. Dans ce cas-là, les Chinois auraient été sous une pression encore plus forte, très certainement. Et là, ils ont des débouchés, ils se rapprochent des Japonais, etc. Vous voyez, il y a toujours des portes de sortie. Alors ça, c'est l'absence de réciprocité sur les investissements, parce que dans les domaines où eux, ils investissent, il est hors de question que les étrangers investissent en Chine, parce que c'est des domaines stratégiques. Il est hors de question qu'on investisse dans les télécommunications en Chine. Et puis, il y a aussi ceux qui sont... Ils sont très, très friands de technologies avancées. Et c'est un petit peu une boutade, mais vous savez que pendant les échanges sur les déficits américains, il y a un responsable, un haut officiel chinois, qui a dit sans rire, qui a demandé, écoutez, pour rééquilibrer les échanges, on propose d'acheter aux États-Unis 5 porte-avions pour une somme de 60, je crois qu'il a cité une somme de 60 milliards de dollars. Voilà, on est prêt à acheter ça cash.
Sur les investissements, la législation chinoise est spécifique là-dessus par rapport aux autres pays, c'est-à-dire que tout le monde protège un certain nombre de domaines stratégiques, mais en Chine, on a le sentiment que c'est à peu près quasiment tous les domaines.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que tout le monde protège, hein, dans la mesure où l'Europe est de ce point de vue-là une vraie passoire. Hein. Le dernier exemple, c'est date de septembre dernier, hein, puisque l'Europe a décidé d'ouvrir sans aucune condition l'importation de panneaux solaires chinois sur le territoire européen. Bon, donc c'était pas la peine il y a 4 ans de faire tout un tas de polémiques avec les Chinois. Et donc on voit bien que lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on fait une croix sur la possibilité de créer une filière de panneaux industriels en Europe. Bon, et donc on a préféré céder au lobby des installateurs plutôt qu'au lobby des producteurs. Ce qui, dans le cas de la France, est d'autant plus absurde, c'est que l'installation de panneaux solaires ne diminue en aucun cas les émissions de CO2. Donc ça n'a absolument, dans les faits, aucun rapport avec la lutte contre le changement climatique. Mais il y a effectivement d'autres pays qui sont plus regardants. Et c'est là, voyez, où je reviens, et c'est pas une obsession, mais c'est parce que ça me paraît quelque chose d'important, à la question de savoir si un pays doit choisir une politique de la concurrence ou une politique industrielle. Les Chinois ont choisi une politique industrielle pendant que leurs partenaires européens choisissent une politique de la concurrence. Donc à partir de là, le fait que ça soit pas les mêmes règles qui s'appliquent en Chine et en Europe, ça n'a rien de surprenant. Et le fait qu'on assiste à des transferts massifs de technologies vers les concurrents, en faveur des concurrents chinois, est évidemment lié à ces choix de politique économique.
Un peu partout en Chine, vous avez des usines qui tranchent le silicium, qui traitent le silicium pour en faire des cellules photovoltaïques et qui commencent maintenant à avoir une qualité suffisante pour les exporter aux États-Unis. Au total, j'ai noté un chiffre de 130 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 130 centrales nucléaires qui seront installées d'ici 2020 en éoliennes. Et ce sont des éoliennes énormes. Elles font maintenant 100 mètres de haut avec des pales de 50 mètres de long qui se plient, qui se tordent en fonction du vent. Ça, c'est étonnant à voir. Le même en énergie solaire. Vous avez un petit peu partout de ces usines, des groupes industriels énormes. Alors là, j'ai peut-être un scoop. Il y a un groupe qui s'appelle Shanghai Electric, qui est le groupe d'État de l'État chinois et qui risque de remporter toute la mise en reprenant le boulot des ténors espagnols, indiens ou américains comme General Electric, simplement parce que l'État chinois va donner tous les crédits d'équipement à cette entreprise-là et pas à d'autres afin de garder le boulot chez eux en Chine. Mais par contre, ça donne un énorme chantier en perspective. Partout, on construit d'énormes usines pour produire ces centrales solaires, ces centrales éoliennes et des fermes pour les exploiter aussi.
Le journaliste Éric Meyer sur France Inter qui parlait des énergies renouvelables et de l'importance qu'elles ont prise en Chine, une importance qui est liée, Jean-Paul Maréchal, à des raisons à la fois environnementales, la Chine souffre considérablement de la pollution, et des raisons bien sûr économiques.
C'est-à-dire qu'il y a trois raisons. Il y a effectivement des raisons environnementales, puisque la pollution de l'air, c'est 1 600 000 morts par an en Chine. Des raisons également diplomatiques, puisque finalement, derrière la lutte contre la pollution de l'air, la transition énergétique, il y a la lutte contre le changement climatique. Et donc, c'est une manière pour la Chine d'avoir une image positive sur la scène internationale, puisqu'on ne peut pas dire qu'elle l'a en matière de respect des droits de l'homme. Et puis, le troisième élément, c'est évidemment un élément économique. Hein, où les Chinois ont réussi en quelques années à se faire les champions des technologies vertes. Et la situation pour eux est finalement très bonne, puisque le président américain, lui, fait l'éloge d'une énergie du 19e siècle, le charbon, pendant que les Chinois se concentrent sur les technologies dites vertes, dans lesquelles ils incluent d'ailleurs le nucléaire. Et à ce propos, il faut savoir c'est qu'ils sont au capital de la centrale d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Mais si on veut rester simplement sur les technologies vertes au sens où on l'entend chez nous, et pour revenir sur des éléments qu'on disait tout à l'heure, en 2015, par exemple, les entreprises chinoises ont investi plus de 100 milliards de dollars dans les énergies renouvelables contre seulement 44 milliards pour les firmes américaines. On apprenait il y a quelques mois par l'administration de l'énergie nationale de Chine, donc c'est vraiment une source chinoise, que 360 milliards de dollars d'ici 2020 allaient être investis dans ses capacités de production d'énergie à bas bilan carbone. Et si on détaille ce chiffre, c'est 144 milliards dans le solaire, 100 milliards dans l'éolien, 70 milliards dans l'hydroélectricité. Et donc on n'est pas étonné dans ces conditions qu'on a vu apparaître au cours des dernières années des sociétés dont on n'avait jamais entendu parler, voyez, dans le domaine par exemple des éoliennes, Goldwyn, United Power, dans le domaine du solaire, Suntech Power, GIA Solar, etc. Donc, vous voyez, tout ce qu'on dit,
qui sont des leaders mondiaux.
Et qui sont maintenant devenus des... Alors, vous voyez, des leaders mondiaux, et Guilhem a raison, c'est-à-dire des leaders mondiaux, c'est-à-dire qu'aucune autre firme n'a ces capacités de vente. Après, et ça c'est peut-être un thème qu'on aura le temps d'aborder, est-ce que ça veut dire que ces sociétés sont capables de faire des choses que personne d'autre dans le monde n'est capable de faire? Là, il faut être beaucoup plus nuancé sur cette réponse-là.
En tout cas, la Chine a très clairement profité de l'arrêt des subventions décidées par Trump envers les technologies vertes, alors qu'on sait que Barack Obama, lui, avait largement et massivement investi dans les énergies renouvelables, Guillaume Fabre.
Oui, moi j'aimerais un petit peu déplacer le débat aussi sur un autre terrain qui a lieu avec l'innovation, mais ça vérifie ce qu'on disait sur l'échelle chinoise qui permet ensuite de développer des grosses sociétés à l'international. Et là, je voudrais souligner les perspectives chinoises dans la technologie 5G. Vous savez qu'il y a une course à la montre entre les Américains et les Chinois sur la technologie 5G qui commence à se mettre en place, etc. Et là, derrière la 5G, il y a quand même des possibilités chinoises qui sont considérables. Les Indiens sont ouverts à une certaine collaboration chinoise. D'autres pays sont ouverts à une certaine installation de la 5G par les Chinois avec les services afférents. Quand ça va se développer, qu'est-ce qu'il va y avoir avec la puissance des smartphones chinois, des Huawei, des Xiaomi, etc. Qu'est-ce qui va venir? Et il y aura Alibaba, Tencent, Baidu, qui vont s'internationaliser comme les GAFA. Et donc, vous allez avoir un système, ce qui est en train de se profiler à l'échelle là des 10 prochaines années, c'est une compétition pour les marchés, surtout des pays émergents. Elle est considérable entre la Chine et les États-Unis.
Alors, je voudrais qu'on évoque un concept qu'on n'a pas encore tout à fait développé, qui est celui de réinnovation. Et pour cela, écoutons les explications du général et membre du groupe de réflexion Asie 21, Daniel Schaeffer.
Une authentique innovation nationale chinoise est une innovation originale, donc française, allemande, américaine, perfectionnée par la co-innovation, donc nous travaillons ensemble sur un projet, et la réinnovation fondée sur l'assimilation des technologies importées. Autrement dit, il n'y a pas d'innovation, c'est du bricolage supérieur certes, mais c'est du bricolage, ce n'est pas de l'innovation. Mais ce qui permet aux Chinois d'attaquer quelqu'un comme Schneider Electric, par exemple, parce que Chint, le concurrent de Schneider Electric en Chine, a copié un tout petit crochet à l'intérieur d'un disjoncteur modulable à quatre pôles, le C60, et ça permet aux Chinois de se retourner contre des sociétés auprès desquelles ils ont acquis de l'information technologique.
Voilà, et toute la question qui se pose maintenant, Jean-Paul Maréchal, c'est dans quelle mesure ces brevets étrangers qui sont donc réinnovés comportent des améliorations véritablement ?
Alors là, vous me posez un peu une colle, parce qu'il faudrait voir ça secteur par secteur. Hein, et donc, on peut pas, je pense, avoir une réponse globale sur ces questions, sur cette question-là. Néanmoins, c'est vrai que pendant longtemps, on peut pas dire que la Chine a été très regardante sur les droits de propriété intellectuelle des sociétés qui n'étaient pas chinoises. Et maintenant, effectivement, c'est ce que dit bien votre interlocuteur, c'est qu'ils vont déposer beaucoup de brevets, et ce qui va leur permettre ensuite de se retourner contre les firmes occidentales qui vont utiliser des variantes de leurs propres produits d'origine. Bon, c'est là vraiment une technique, vous voyez, qui permet de verrouiller encore un peu plus le marché chinois. Après, puisqu'on parle d'innovation, une question qui reste ouverte, hein, c'est de savoir si la Chine sera véritablement à un moment en position, enfin j'entends à court terme, de faire des innovations radicales. C'est-à-dire, vous voyez, de vraiment se situer sur la frontière technologique. Bon, et ça, il n'y a pas vraiment de réponse, et ça dépend des secteurs.
À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun produit que les Chinois savent faire, que les Européens ou les Américains ne sauraient faire.
Écoutez,
c'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais moi, je compare toujours. J'ai une perspective historique par rapport à la Chine. Je disais, qu'est-ce qui a inventé le cinéma, l'aviation, et toute une série de... Bon, c'est les Européens. Et où est-ce qu'ils se sont développés au XXe siècle, dans les années 20 et 30, aux États-Unis, grâce au taylorisme, grâce au fordisme, grâce à des modes d'organisation qui ont permis cette expansion-là. Eh bien, on voit donc cette capacité de fabriquer des innovations radicales ou des découvertes radicales ne veut pas dire nécessairement qu'on va les développer. Mmh. Par contre, la capacité de développer des innovations radicales, le pays qui en dispose, c'est le pays qui a effectivement en mesure ensuite de dominer les autres.
Donc pas encore d'innovation radicale à l'heure actuelle, Jean-Paul Marchal, mais peut-être dans relativement court terme.
Tout dépend évidemment dans quelle perspective temporelle on se situe, et ça je suis d'accord avec ce que dit Guilhem. En même temps, si on prend par exemple le cas de l'aéronautique qu'il citait, lorsque les Européens ont voulu construire des avions de transport de plus de 100 places, ils ont fait Airbus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller espionner les Américains parce qu'il y avait une tradition industrielle en Europe, et c'était simplement sur les gros porteurs long courrier que les Américains avaient une part de marché qui était évidemment sans commune mesure avec celle des Européens. Mais par exemple, si on veut rester sur ce domaine-là, un certain nombre de personnes vous expliquent que le constructeur chinois Comac va produire un avion, le C-919, qui est censé concurrencer l'Airbus A320. Je vous rappelle, c'est que pour le moment, le C-919, il a eu quelques centaines de commandes, mais il est toujours pas en service, alors qu'on l'annonçait en service en 2014, puis en 2016, et qu'aujourd'hui, Airbus et Boeing produisent chacun un avion par jour. Bon, et que si on voulait rentrer un tout petit peu dans le détail, les Airbus et les Boeing sont des avions qui sont largement en carbone et qui utilisent peu d'aluminium, de l'ordre de 19%, alors que les Chinois ont fait le choix d'utiliser de l'aluminium à hauteur de 40%.
Et donc, puis sur le C-919, ce sont des composantes européennes en grande partie.
Ça s'ajoute, c'est que non seulement les moteurs sont européens, mais qu'à peu près 80% des composants sont des composants fabriqués soit en Europe, soit aux États-Unis. Et la question qui se pose, à laquelle je n'ai pas réponse, c'est de savoir si les équipementiers qui sont associés dans des co-entreprises avec justement Avic et Comac, qui sont les deux grands constructeurs chinois, est-ce que finalement ils livrent à la Comac des composants sur étagère, c'est-à-dire des modèles standards, réservant pour les constructeurs comme Boeing et Airbus des produits plus développés ou pas? Malheureusement, je ne suis pas dans les secrets industriels de ces deux constructeurs, mais c'est une question qu'on doit se poser.
Puis autre domaine, autre secteur très intéressant, c'est la voiture, et notamment la voiture électrique. La Chine qui veut absolument développer ce secteur et qui du coup fait une sorte de saut de technologie puisqu'elle ne développe pas les moteurs à combustion.
Alors voilà, ça c'est un excellent exemple. C'est que le développement de la voiture électrique permettrait, si on arrive à terme de permettre aux constructeurs chinois de ne pas avoir à maîtriser complètement les moteurs à combustion interne. Donc ça leur permettrait, voyez, de pouvoir passer cette étape technologique là. Et puis le deuxième intérêt, alors cette fois-ci pas forcément pour les constructeurs chinois mais pour la Chine, ça serait de rendre les pays qui se convertiraient à la voiture électrique dépendants des terres rares, c'est-à-dire que la Chine contrôle aujourd'hui 95% d'un certain nombre de substances, de minéraux qui sont indispensables à la construction des batteries, comme le lithium par exemple.
Mais la généralisation des voitures électriques en Chine, ça n'est quand même pas pour tout de suite. Vous n'êtes pas forcément très optimiste sur un relatif court terme, notamment à cause de la nécessité de produire des zones de rechargement en électricité.
Ah ben oui, c'est-à-dire que moi je suis très très dubitatif en Chine ou ailleurs sur la capacité d'une conversion rapide du parc automobile existant à la voiture électrique, parce que pour le moment, si vous prenez le cas de la France, hein, mais c'est pareil en Chine, c'est pareil partout, la consommation d'électricité par les voitures électriques est noyée dans la consommation globale d'électricité. Mais si demain on décidait, par hypothèse, par un coup de baguette magique, de faire passer le parc automobile actuel avec un parc électrique, alors là pour le coup il faudrait en installer des centrales nucléaires à charbon, des panneaux solaires, tout ce que vous voulez pour produire, et puis en plus il faudrait évidemment avoir un réseau de distribution d'électricité et puis des temps de recharge qui sont bien inférieurs aux 45 minutes actuelles qui passent déjà pour des hautes performances. Donc je pense que là aussi il faut faire le départ entre l'affichage, parce que ce dont on n'a pas parlé aussi dans cette émission, c'est de la capacité de la Chine à diffuser une propagande qui est relayée par un certain nombre de personnes en Occident. On nous a pendant des années bassiné avec des villes vertes qui allaient pousser comme des champignons en automne, et puis les villes vertes, pour le moment, on les attend encore. Bon, là, on nous annonce que la voiture électrique pour en Chine, c'est pour demain sur une échelle absolument considérable. On attend encore de voir. Donc voilà, moi je suis pas Nostradamus, hein, donc j'ai pas à vous prévoir l'avenir. Je vous dis simplement que pour le moment, on est loin d'en être là, quoi.
Guillaume Fabre.
Oui, alors ce qui est certain, ce qui ressort un petit peu de ce qu'on a dit, c'est que effectivement, il y a, en matière industrielle, il n'y a eu aucune innovation radicale chinoise. Mais il y a tout ce qui s'est passé, c'est que toutes les sociétés chinoises ont développé des applications d'innovation existantes à une échelle insoupçonnée. Et c'est là-dessus que se sont développées des sociétés multinationales d'une puissance étonnante, hein, d'abord sur le marché intérieur énorme, hein, dans le domaine du TGV, de la télécommunication, de l'internet, du e-commerce, mais aussi dans des tas d'autres domaines, hein, dans le domaine de la finance, de l'électroménager, hein, dans le domaine et puis par ailleurs, ils ont développé ces sociétés à l'abri de barrières douanières étonnantes, parce que dans un marché totalement fermé, à l'abri de toute concurrence. Et là, maintenant, ils partent à l'assaut du monde.
Alors justement, on arrive presque au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot à ce propos, Jean-Paul Maréchal, sur l'avenir peut-être de ces innovations chinoises à l'assaut du marché mondial.
Ah, moi, je pense que de toute façon, ça va être extrêmement compliqué de limiter l'expansion des producteurs chinois à l'étranger. Ça, c'est la première chose. Alors là, on a beaucoup parlé de produits, vous voyez, de voitures électriques, d'avions, etc. Mais je pense qu'il y a un autre enjeu qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. C'est que à partir du moment où les firmes chinoises vont occuper une place importante sur les marchés internationaux, elles seront en mesure de fixer les normes techniques des produits. Et ça, faut bien comprendre, c'est que la concurrence entre les grandes multinationales, c'est pas simplement sur les produits, c'est sur les normes techniques qui ensuite se généralisent sur les standards qui s'appliquent à l'échelle internationale. Et là, il faudra être extrêmement vigilant.
Et il nous faudra faire une nouvelle émission, en effet, sur cette notion de normes techniques qui est essentielle. Un grand merci à tous les deux. C'est C'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous êtes venu nous annoncer de bonnes nouvelles en matière de lutte contre le changement climatique.
Mais oui, alors que le GIEC appelait encore récemment à une prise de conscience sans précédent, mais aussi et surtout à la mise en œuvre de changements conséquents à tous les niveaux de la société, il semblerait que de bonnes nouvelles se profilent. Secoué par ces mises en garde répétées, l'homme a su se ressaisir pour créer les conditions de son salut. Partout, les politiques tournent casaque et la science nous dévoile les premiers signes d'un changement à venir. Des innovations par centaines nous promettent l'arrivée de lendemains qui chantent. D'ailleurs, l'une des plus belles illustrations de ces innovations pour un monde meilleur pourrait être le projet d'arbre synthétique permettant de capter le trop-plein de CO2 dans l'atmosphère. Mais oui, alors que l'homme détruit chaque année l'équivalent de la surface de l'Italie en forêt, il aurait enfin trouvé la solution pour compenser avantageusement son action.
Mais de quoi s'agit-il concrètement, Arjuna ?
Eh bien, actuellement, au stade de prototype très avancé, selon ses concepteurs, ces bijoux technologiques fonctionnent en réalité sur le principe de filtres géants à particules. Ce sont des dispositifs composés d'une résine capable de filtrer l'air ambiant afin d'en extraire le dioxyde de carbone. Lorsque le vent souffle, les filaments artificiels se gorgent de CO2 avant de se décharger au fond des océans où le carbone resterait stocké. Et si ces unités coûtent aujourd'hui près de 200 000 $ pièce, leurs concepteurs sont très confiants sur leur capacité à faire drastiquement baisser leur prix par d'importantes économies d'échelle. D'autant que la fameuse résine est en réalité un dérivé de pétrole bon marché. Mais oui, de pétrole, vous avez bien entendu, ce matériau miracle et polymorphe dont on connaît la neutralité carbone sur la planète. Alors que l'urgence n'a jamais été aussi grande, aussi évidente, même que ces manifestations se font sentir un peu plus chaque jour, l'espoir de l'humanité résiderait donc dans des artefacts synthétiques, des contrefaçons techniques de l'équilibre de la nature.
Les initiatives se multiplient pourtant pour développer des procédés de captation du carbone.
Mais oui, si de prime abord on serait tenté de saluer ces avancées technologiques permettant de lutter contre le réchauffement climatique, il convient en réalité de mieux examiner ces innovations afin de comprendre leur portée, non seulement technique mais aussi économique et politique. C'est à cette tâche difficile que s'est attelé le Conseil des Académies des Sciences Européennes en rendant un rapport complet sur le rôle possible des technologies d'extraction du CO2. Et son constat est sans appel, ces innovations n'offrent aujourd'hui qu'un potentiel limité pour prélever le carbone de l'atmosphère et ne sauraient donc être considérées comme des solutions miracles. En réalité, au-delà du fait que ces technologies ne sont pas encore mûres, elles posent également un problème politique puisqu'elles conduisent à laisser croire que nous pourrions continuer de croître, produire et consommer de la même manière en trouvant toujours une solution du côté de la science et de l'innovation.
C'est d'ailleurs le problème que pointe explicitement le rapport.
Oui, selon l'organisme européen, penser que la technologie va venir à notre rescousse peut sembler attrayant, mais cela risque en réalité d'avoir une incidence négative sur la mise en œuvre de mesures d'atténuation rapides et profondes dès aujourd'hui. En clair, il est plus facile de faire miroiter des solutions technologiques à venir que de demander un engagement politique, citoyen, qui viendrait bousculer nos habitudes et notre confort actuel. Il est bien entendu nécessaire de continuer la recherche et l'innovation pour trouver des alternatives viables à notre modèle actuel de développement. Mais il est également fondamental de reconnaître la nécessité d'aller vers des modes de consommation et de production plus durables et donc plus sobres. Et ce, quitte à revenir vers des solutions évidentes mais efficaces, c'est ce qu'a compris la Chine en lançant un grand plan de reforestation de son territoire, en ciblant particulièrement les espaces les plus pollués. Un espace au long cours surnommé Grande Muraille Verte de Chine qui a permis de planter depuis 2008 plus de 13 millions d'hectares de forêt.
I'm a spy.